Ouvrons le plus merveilleux livre dans les psaumes au chapitre 34. Et nous lirons les versets 8 à 11. Nous aurons trois textes qui appuieront la prédication de ce matin. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Deuxième texte, dans Matthieu 6, au verset donc 33 et 34. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et dernier passage, dans Philippiens 4, les versets 4 à 13. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurer votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est donc en comptant sur l'œuvre de l'Esprit de Dieu que nous entrons dans la prédication de ce jour. Et pour commencer cette année 2017, en ce premier jour de l'année, ce particulier, hein, dimanche 1er janvier, eh bien, nous allons aborder un sujet qui, je l'espère, nous accompagnera durant toute l'année 2017. C'est un sujet tiré du dernier chapitre de l'Épître aux Philippiens que nous allons développer en deux prédications. Il s'agit en fait du contentement. Le contentement. Ce qui produit ce qu'on pourrait appeler la gratitude-attitude. Le contentement produit la gratitude-attitude. Être content ou être mécontent change totalement la vie. Il n'y a pas de neutralité dans ce sujet. Et j'aimerais nous faire comprendre, comme il est dit dans Proverbe 15:15, que le cœur content est un festin perpétuel. Le cœur content est un festin perpétuel, nous dit Proverbe 15:15. Et c'est ce que nous allons essayer de saisir pour toute l'année. Et le texte fondamental de nos réflexions se trouve dans Philippiens 4, 11. C'est le début du texte que vous voyez affiché. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Nous allons aujourd'hui aborder trois choses, trois mots qu'on pourrait utiliser. Apprendre quoi, pourquoi. Bon, un peu plus développé, le fait que le contentement s'apprend. J'ai appris à apprendre. Deuxièmement, nous allons chercher à comprendre qu'est-ce que le contentement, quoi. Et troisièmement, pourquoi nous devrions apprendre le contentement, pourquoi. Et dans deux semaines, nous verrons la suite. Nous verrons aussi trois choses. La source, l'inverse et comment. Qu'est-ce qui nous permet d'être content, la source. L'inverse du contentement pour mieux l'apprécier, l'inverse. Et comment vivre le contentement, le comment. Mais ça, c'est pour dans deux semaines. Restons aujourd'hui sur le apprendre, quoi. Pourquoi? Et pour ceux qui désirent approfondir ce sujet, n'hésitez pas à lire le livre de Thomas Watson qui s'intitule « Le contentement est un don de Dieu » qui a été un large soutien pour ses prédications. Dans Philippiens, avant de parler du contentement, Paul, dirigé par le Saint-Esprit, venait parler de plusieurs exhortations importantes comme 4:4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Ou bien, ne vous inquiétez de rien, au verset 6. Or, comprenez bien que ce n'est pas une vie insouciante que l'apôtre Paul nous appelle à vivre aujourd'hui, mais une vie où les soucis sont déposés, évacués. Il est dit dans 1 Pierre 5:7, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Parce que les soucis sont un cancer spirituel qui affaiblit et qui décourage. Et j'aime bien la petite illustration qui suit, qui dit que les soucis auront plus vite ajouté 1 kilomètre à votre douleur qu'un centimètre à votre consolation. C'est ça les soucis. Les soucis ajouteront des kilomètres à votre douleur, mais n'ajouteront même pas 1 centimètre à votre consolation. Et le contentement de l'état où on se trouve, est un antidote aux soucis. Justement. Car celui qui est content n'est pas en souci pour ce qu'il pourrait avoir, ce qu'il aurait dû recevoir, ce qu'il aurait pu gagner ou ce qui pourrait lui arriver. Non. Celui qui est content dans l'état où il se trouve n'a pas ses soucis. Et l'apôtre Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Alors, il ne dit pas que le contentement est venu automatiquement dans sa vie. Non, il a dit, j'ai appris. C'est notre premier point. J'ai appris, apprendre. Avec ce verbe apprendre, nous comprenons qu'il y a un apprentissage, que le contentement n'est pas automatique. Et nous allons voir deux grandes vérités pour développer cet élément. La première, c'est qu'il ne suffit pas d'en entendre parler, il faut y travailler pour le vivre. Il ne suffit pas d'en entendre parler, il faut y travailler pour le vivre. Et deuxièmement, nous verrons que vivre les vertus spirituelles demande un effort. Il ne suffit pas d'entendre, il faut apprendre. Et parfois, pour avancer sur le chemin de la compréhension, il est utile d'enlever les ronces qui bloquent le passage. Peut-être avez-vous déjà fait des balades dans la nature et vous avez arrivé sur des sentiers, il y a des ronces, vous ne pouvez plus passer. Donc il faut les couper, les enlever. Et c'est ce que nous allons faire maintenant en examinant deux attitudes qui nous empêchent d'apprendre. La première, vous verrez, ce n'est pas compliqué, mais c'est de ne pas s'intéresser à ce qu'on entend. On intitule ça « Un manque d'égard à ce que l'on entend ». Ça, c'est des ronces qui sont sur notre chemin de la compréhension. Et là, on peut se poser la question. Est-ce que la parole de Dieu est pour nous une perle de grand prix pour laquelle nous serions prêts à vendre tout ce que l'on a pour la posséder? Bon, théoriquement, bien sûr. Est-ce qu'elle a vraiment autant de valeur pour nous? Est-ce que le trésor dans le ciel a plus d'importance pour nous que nos carrières, nos loisirs, notre bien-être? Le trésor dans le ciel. Si ce que la Bible ne nous intéresse pas, comment serait-il possible d'apprendre? Pour ceux qui ont été enfants, il y en a beaucoup ici, se souviennent peut-être que s'ils ne s'intéressaient pas à ce que leur père leur disait, il avait beau leur expliquer ce qu'il fallait faire, ils n'apprenaient pas. Quand on ne s'intéresse pas, on n'apprend pas. Le manque d'intérêt, le manque d'égard est une ronce terriblement piquante qui empêche d'apprendre. Il faut l'arracher, il faut nettoyer le sentier pour avancer dans la pratique de ce qui est enseigné. Et la deuxième attitude qui produit des épines qui empêchent d'emprunter le sentier de l'apprentissage, c'est de ne pas exercer sa mémoire, ce qu'on pourrait intituler « l'oubli de ce qu'on entend ». Pourtant, la mémoire de l'homme emmagasine une quantité d'informations inutiles. Quantité d'informations inutiles. En fait, nous avons une mémoire sélective. Et notre mémoire, en fait, garde ce qui nous intéresse. Quelque chose qui ne nous intéresse pas, on ne le garde pas. Bon, parfois, il y a des choses qui ne nous intéressent pas qu'on garde, qu'on aimerait ne pas garder, évidemment. Mais quand on regarde au fond, ça nous intéresse, ce que l'on garde. Bien souvent, par exemple, nous gardons facilement les blessures que les autres nous ont faites. C'est un peu comme garder de la boue hein, qu'on laisse traîner dans nos pensées. Nous avons entendu dire que le péché est horrible. Vous avez déjà entendu ça? Les horribles péchés. Ils mènent à des conséquences désastreuses. Ok. Est-ce que nous sommes des auditeurs oublieux ou des élèves studieux? L'élève studieux qui comprend que la nature du péché est terrible apprend à l'abandonner.
à le combattre.
Alors que l'auditeur oublieux passe d'une prédication, d'une étude biblique à l'autre, sans aucun impact dans sa vie. Nous entendons parler souvent de Jésus-Christ. Qu'avons-nous appris ? Il est possible d'entendre parler de Jésus-Christ et même de le proclamer, de proclamer lui appartenir sans jamais avoir appris à vivre pour Christ. Ce n'est pas moi qui le dis. Matthieu 7 le dit très clairement. Que plusieurs viendront et diront « Nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles, nous avons chassé des démons au nom du Christ. » Mais Jésus leur dira « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous qui commettez l'iniquité. Vous savez, les ronces et les épines sont coriaces. Et ces ronces et épines sont coriaces sur le chemin de l'apprentissage. Et il faut les enlever. Il faut les enlever en s'intéressant avec attention à la parole de Dieu. Et ainsi couper les ronces, manque d'égard pour ce que vous entendez. Et les épines oublient des paroles entendues qui vont avec. Que le Seigneur donne la grâce de couper ces ronces, manque d'égard pour ce que l'on entend. Que lorsqu'on entend la parole de Dieu expliquée, ça nous intéresse. Oui, je veux connaître. Et les épines oublient de la parole entendue qui vont avec, c'est-à-dire, Seigneur, j'ai besoin de toi pour ma mémoire, évidemment. Mais si nous sommes intéressés, nous aurons aussi plus cette mémoire qui sera activée. Et le contentement, justement, se trouve sur ce chemin d'apprentissage, libéré de ses ronces. Le contentement trouve sa source dans la vie selon Jésus-Christ. Nous sommes donc appelés à apprendre ce qu'est la vie en Christ. J'aimerais juste vous donner trois éléments qui nous y aident. Premièrement, ressembler à Christ. Et comme le dit Watson, je vous dis ces mots parce que je les trouve beaux. Il nous dit « porter les divines caractéristiques de la sainteté de Jésus gravées sur notre cœur ». Porter les divines caractéristiques de la sainteté de Jésus gravées sur notre cœur. Une métamorphose en fait qui intervient lorsque l'image de Christ est reflétée en nous, dans le miroir de l'Évangile qui nous transforme. C'est 2 Corinthiens 3,18 qui nous dit cela. Transformer à l'image de Christ. Donc ressembler à Christ. Deuxièmement, croire en Jésus-Christ. Or, croire en Jésus-Christ, ce n'est pas juste entendre parler de lui. C'est de dire « mon Sauveur, mon Jésus-Christ ». Est-ce que vous pouvez dire « mon Sauveur » ? On peut peut-être dire « le Sauveur du monde », ok ? Mais mon Sauveur, celui qui m'a sauvé. Et troisièmement, donc, ressembler à Christ, croire en Jésus-Christ et aimer Dieu. Aimer Dieu. Tout ce que Christ a fait, il l'a fait par amour pour son Père. 1 Jean, vous pouvez relire toute l'épître de 1 Jean, nous dit que tout ce qui est à la base de la vie chrétienne épanouie, c'est aimer Dieu. Tout découle de cela, en fait. Tout ce que nous allons faire découle de l'amour que l'on a pour Dieu. Et le contentement fait partie de ce qui découle de cet amour que nous avons pour Dieu. Paul n'a pas seulement entendu parler du contentement, il l'a appris. Il a enlevé les ronces, manque d'égard pour ce qu'il entend, les épines oublient des paroles entendues, pour suivre le sentier de l'apprentissage du contentement qui s'enracine dans l'apprentissage de la vie en Christ. Nous venons de voir une première vérité qui soulignait que l'apprentissage du contentement n'était pas automatique. C'est qu'il ne suffit pas d'entendre, il faut apprendre. Et voici la deuxième vérité. Vivre les vertus spirituelles demande un effort. Alors vous allez me dire, je vous dis maintenant une vérité. Personne n'a besoin d'apprendre à pécher. C'est naturel à l'homme depuis la chute. On le fait très facilement. Donc l'homme n'a pas besoin d'apprendre le métier de pêcheur, avec accent aigu. Mais il n'atteint pas l'art du contentement divin sans effort. Et voici deux raisons principales. C'est que les choses spirituelles s'opposent à la nature humaine. Les choses spirituelles s'opposent à la nature humaine. Et deuxièmement, les choses spirituelles surpassent même la nature humaine. Il faut bien comprendre ici, c'est que lorsque nous sommes rachetés par Jésus-Christ, justifiés par sa mort, nous recevons une nouvelle nature. Mais nous ne connaissons encore que les habitudes de la nature humaine. Cela nous concerne donc tous. Et pour bien comprendre cette première raison, que les choses spirituelles s'opposent à la nature humaine, j'aimerais vous donner quelques exemples de choses spirituelles qui s'opposent à la nature humaine. Par exemple, le renoncement à soi s'oppose à la nature humaine. Il est dur d'abandonner sa propre sagesse, de se voir comme aveugle, de renoncer à sa propre volonté pour suivre celle de Dieu. C'est dur, Ça s'oppose à la nature humaine. Il faut l'apprendre. Cela demande des efforts. Ou encore l'examen de soi. L'examen de soi s'oppose à la nature humaine. Cette nature n'accepte pas volontiers d'être démontée pièce par pièce pour être nettoyée en profondeur. Non. Sans l'apprendre, l'examen de soi n'est pas possible de vivre. Ça s'oppose à la nature humaine. Ou encore, la réformation de la vie s'oppose à la nature humaine. Vous avez déjà vu une pierre, petite pierre, hein, pas trop grande, que je pourrais prendre dans ma main. Si je la lance en l'air, qu'est-ce qui se passe? Elle retombe! Elle retombe. Il faut exercer une force violente pour que la pierre s'élève. Parce que sa nature ne la propulse pas dans cette direction-là. C'est la même chose pour l'âme de l'homme qui a besoin d'un effort puissant pour se tourner vers le ciel. Et la force se trouve auprès de Dieu. L'apprentissage demande un effort. Parce que les choses spirituelles s'opposent à la nature humaine. Donc l'apprentissage demande un effort parce que les choses spirituelles s'opposent à la nature humaine. Et le contentement est une chose spirituelle qui s'oppose à la nature humaine. La deuxième raison qui souligne que les vertus spirituelles demandent un effort, c'est que les choses spirituelles dépassent ou surpassent la nature humaine. Or juste pour réfléchir qu'il y a des choses qui nous dépassent et qu'on a besoin d'y travailler. Dans la nature, il y a certains phénomènes qu'il est difficile à expliquer. Comme par exemple le génome humain. Qui ici peut me l'expliquer? Il pourrait y avoir des personnes qui l'ont étudié, qui pourraient l'expliquer. Mais ces personnes ont dû faire des études et des recherches. Ce n'est pas quand je vous dis, dites-moi qu'est-ce que le génome humain, puis vous me l'expliquez. Ça demande un effort. Cela nous dépasse en fait quelque part. Donc dans la nature, il y a certains phénomènes qu'il est difficile à expliquer, comme par exemple le génome humain. Et pour le comprendre, il faut faire beaucoup d'études et de recherches. Que dire alors des choses spirituelles qui appartiennent même à une sphère supérieure encore? Qui découvrira par lui-même des doctrines comme celle de la Trinité ou de la double nature de Christ? Vous savez, on peut lire sur le cadran solaire, mais il faut que le soleil brille pour donner l'heure. Eh bien, pareillement, si nous lisons la Bible entière une centaine de fois, nous n'apprendrons rien si l'Esprit de Dieu ne brille pas sur nos cœurs. Apprendre Christ ne vient pas naturellement. L'Esprit doit nous éclairer et nous devons apprendre avec beaucoup de sérieux et de détermination. C'est lié en fait. Nous devons être éclairés, sans cet éclairage nous ne pouvons rien faire. Et nous allons apprendre avec beaucoup de sérieux et de détermination. Le contentement n'est pas automatique. Il faut l'apprendre. Paul dit « j'ai appris ». Et nous venons de développer deux vérités importantes. Il ne suffit pas d'entendre. Il faut y travailler. Et deuxièmement, vivre les vertus spirituelles demande un effort. Je pense que nous avons compris maintenant que cette notion d'apprentissage fait partie de ce que l'apôtre Paul nous donne. J'ai appris. Et venons-en maintenant à l'application elle-même. Appris quoi ? Appris quoi ? J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. C'est notre prochaine étape, le deuxième point. Comprendre le contentement. C'est quoi le contentement? Eh bien, le contentement dont nous parlons ce matin, ce n'est pas la satisfaction d'une réussite personnelle. Ce n'est pas juste j'ai réussi à faire quelque chose, je suis content. Non, c'est un état d'esprit, un art divin. En fait, un esprit content est un esprit rempli de grâce. Un esprit content, c'est un esprit rempli de grâce. C'est vrai que le contentement est une leçon difficile. Les anges eux-mêmes ne l'ont pas de façon innée. Plusieurs d'entre eux cherchèrent à s'élever. Ils n'étaient pas contents de leur situation. Et même nos premiers parents, avant que la chute n'ait fait ses effets, n'avaient pas appris la leçon du contentement. Ils désiraient devenir comme Dieu. Ils avaient tous les arbres du jardin. Mais ils ne pensaient que à celui du bien et du mal. Et il se dirait, sans celui-là, on ne sera jamais content. Alors, si cette leçon du contentement était déjà difficile à apprendre dans les lieux célestes parmi les anges, et dans un lieu où il n'y avait encore pas eu la chute au jardin d'Éden, combien plus difficile l'est pour nous qui sommes entachés du péché. C'est vrai, c'est difficile. Le contentement est une leçon difficile. Le contentement concerne tout le monde, les riches et les pauvres, partout sur la terre. Regardez avec moi dans Philippiens 4, si vous l'avez encore ouvert, ou bien reprenez vos Bibles, dans Philippiens 4, l'affirmation qui suit ce que Paul a dit. « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve », verset 12, « Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Le riche, celui qui est rassasié, celui qui est dans l'abondance, doit apprendre le contentement. Ce n'est pas parce qu'il a ces choses qu'il est content. Parce que bien souvent, il en veut plus. Ou s'il a tout ce qu'il faut, il lui manque un honneur. Pensez à Aman, il avait tout ce qu'il voulait. Mais Mardoché ne faisait pas ce qu'il voulait. Le pauvre qui vit dans l'humiliation, qui a faim, qui est dans la disette, a également besoin d'apprendre le contentement. Mais c'est une chose très difficile dans ces situations-là. Et il est bon de l'apprendre très vite. Parce que plus on attend, plus ça devient difficile. Même si c'est excellent. L'apôtre Paul a vécu dans des situations extrêmes. Et pourtant, il peut dire qu'il a appris à être content dans l'état où il se trouvait. Et il est bien clair que ce genre de contentement ne fait pas partie de notre nature humaine. Ce genre de contentement ne fait pas partie de notre nature humaine. Mais nous recevons cette qualité à développer dans la nouvelle nature en Christ. En fait, nous recevons le contentement. Nous recevons cette qualité à développer dans la nouvelle nature en Christ. Comprenez bien, le contentement, ce n'est pas quelque chose qu'on a naturellement, mais c'est quelque chose qui nous est donné et que l'on est appelé à vivre. Paul souligne clairement au verset 13 qui suit cette explication sur le contentement, quelque chose d'important. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et si vous êtes dans une situation où vous dites « je n'arrive pas à être content là », ben lisez ce texte. « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Donc il est possible d'être content dans cette situation par celui qui nous fortifie. Le contentement est un art divin. Mais j'aimerais m'arrêter avec vous aussi encore sur quelques caractéristiques du contentement. Le contentement, en une phrase, selon Watson, je dois la relire deux fois, c'est toujours assez condensé, mais c'est très intéressant. Il dit ceci, le contentement, c'est une douce disposition de l'esprit qui permet aux chrétiens de se comporter de manière équilibrée en toutes sortes de conditions. C'est une douce disposition de l'esprit qui permet aux chrétiens de se comporter de manière équilibrée en toutes sortes de conditions. Alors, trois petites caractéristiques de ce contentement. La première, c'est que le contentement vient de Dieu. Deuxièmement, le contentement n'est pas dépendant des circonstances. Et troisièmement, le contentement, c'est une habitude. Alors, le contentement vient de Dieu. Si nous disons que le contentement est divin, c'est en opposition au contentement que l'homme pourrait atteindre par ses propres forces. Parce que le contentement de l'homme, il est souvent lié à l'orgueil. J'ai réussi, je suis content. Ça ne dure pas très long, Ou bien lié à la fatalité. Moi, là, je suis content, parce que de toute façon, c'est comme ça, je ne peux rien faire d'autre. Ou à l'insouciance. Quelque part, je me soucie de rien, je suis content. Non, on ne parle pas de ces contentements-là. Le contentement divin se repose sur Christ, comme un sarment se repose sur le cep, sans lequel il n'existe pas. Le contentement divin est lié à la piété. On lit dans 1 Timothée 6, 6, « Certes, c'est une grande source de gain que la piété, si l'on se contente de ce que l'on a. » 1 Timothée 6, 6. La piété sans le contentement n'a aucun intérêt. Prier, lire la parole de Dieu, ça sans contentement, ça n'a aucun intérêt. Et le contentement sans piété est mort. Ce contentement vient de Dieu. Et l'homme ensuite l'exerce. Comme la foi vient de Dieu, mais c'est l'homme ensuite qui exerce la foi. La repentance vient de Dieu, mais c'est l'homme qui ensuite exerce la repentance. Le contentement vient de Dieu, mais c'est l'homme qui ensuite exerce le contentement. Comme les jambes que vous avez viennent de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui marche avec ses jambes, c'est vous. De même, le contentement vient de Dieu. Mais c'est nous qui sommes appelés à marcher dans le contentement. Le contentement que nous avons à exercer est donc une chose divine. Deuxième caractéristique, le contentement n'est pas dépendant des circonstances. Le contentement repose dans l'âme. Il ne dépend pas des circonstances extérieures. Watson, qui a une imagination fertile, nous dit que l'âme qui possède une mesure précieuse de ce joyau du contentement ressemble en fait à l'arche de Noé. Elle navigue au sein même du déluge et elle arrive à l'autre rive. Ça, c'est le contentement. Même dans le déluge, elle arrive à l'autre rive. Le contentement n'est pas créé ou influencé par les circonstances. Il existe de façon indépendante des circonstances. En fait, le contentement est lié ou est dépendant de Christ, pas des circonstances. Troisièmement, dans ses caractéristiques, courtement, le contentement est aussi une habitude. Ce n'est pas une étoile filante qui apparaît, qui disparaît. Ce n'est pas du contentement, cela. C'est comme quelqu'un qui donne une fois 10 francs, et après il ne donne plus jamais rien dans sa vie. On ne va pas l'appeler généreux. Le contentement ne se vit pas qu'une fois. C'est une habitude. Le contentement n'est pas une action, une attitude ponctuelle. C'est une habitude. Nous savons donc maintenant que le contentement vient de Dieu. Le contentement n'est pas dépendant des circonstances et le contentement est une habitude. Mais alors, pourquoi chercher le contentement? C'est notre troisième point, le pourquoi. Nous avons vu apprendre. Quoi? Et maintenant, mais pourquoi alors? Eh bien, nous allons le voir du point de vue de Dieu et ensuite du point de vue de notre situation. Du point de vue de Dieu, c'est en fait un précepte de Dieu. Dans Hébreux 13, 5, il est dit « Contentez-vous de vos biens actuels. Le Dieu qui ordonne de croire nous commande aussi d'être content. » Dieu nous dit « Croyez en Jésus-Christ » et Dieu nous dit aussi « Contentez-vous de ce que vous avez. » C'est un précepte de Dieu. Alors ce qui nous empêche, c'est vrai parfois, comme on l'a déjà vu tout à l'heure, de vivre ce contentement, eh bien c'est un manque d'égard pour ce qu'il nous dit. Il dit ça, bon ok, il dit ce qu'il veut, moi je fais ma vie. Un manque d'égard nous empêche de vivre dans le contentement. Mais le contentement est un précepte de Dieu. Voilà pourquoi nous le cherchons. Pourquoi encore chercher le contentement? Parce que c'est lié à une promesse de Dieu. Dans Hébreux 13, 5, toujours, il est dit, « Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. » On a lu dans le psaume 34, dans Matthieu 6, des textes tellement forts, Dieu ne nous abandonne pas. Voilà pourquoi je peux être content. Dieu s'engage solennellement à fournir notre nécessaire. Cherchons donc, de notre côté, simplement à être content. Et là, Watson dit, ça vous l'avez sur vos feuilles devant, c'est une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « La foi récolte le miel du contentement dans la ruche des promesses de Dieu. » La foi récolte le miel du contentement dans la ruche des promesses de Dieu. Nous cherchons le contentement parce que nous avons foi dans les promesses de Dieu. Pourquoi encore chercher le contentement? Parce que c'est le décret de Dieu. Quelle que soit notre condition, le régisseur divin de l'univers lui-même a décrété cette condition pour nous de toute éternité. Ce n'est pas par hasard, comme les croyants l'imaginent, que nous sommes là où nous sommes dans l'état actuel. Ce n'est pas par hasard. C'est Dieu lui-même qui dirige et contrôle tout. Et parfois, on s'imagine que telle ou telle situation pourrait être meilleure pour nous. Mais si nous devions choisir nous-mêmes, nous hériterions souvent des situations bien pires encore. Quelques exemples. Lot, par exemple. Il a pu choisir. Lot a pu choisir et il se retrouva dans un lieu qui fut détruit par le feu. Rachel désirait tellement des enfants, elle a même dit « Donne-moi des enfants ou je meurs ». Mais la naissance de son second enfant lui coûta la vie. Les disciples désiraient que Jésus reste avec eux. Jésus a dit, je vais partir. Il a dit, non, faut que tu restes avec nous. Mais il valait mieux qu'il s'en aille pour que le Consolateur vienne vers eux. Vivre dans le contentement, car nous vivons dans ce qui fait partie de ce que Dieu veut. C'est le décret de Dieu. Et j'aimerais vous lire une citation qui m'exhorte et qui m'encourage à comprendre et vivre cela. La connaissance d'un décret et d'une providence qui détermine et arrange toutes choses devrait conduire notre cœur vers un saint contentement. Le Dieu très sage a ordonné notre condition. S'il juge meilleur pour nous de vivre dans l'abondance, nous connaîtrons l'abondance. S'il voit que nous bénéficierons davantage dans la pénurie, nous vivrons dans le besoin. Contentez-vous d'être à la disposition de Dieu. Fin de la citation. Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous maintenant. Et de plus, en réfléchissant au décret de Dieu, nous constatons que chacun est à sa place. La condition d'une personne ne conviendra pas à une autre personne. Et vous savez, ce n'est pas la volonté de Dieu qui nous trouble, mais le mécontentement. C'est le mécontentement qui nous trouble. Ce n'est pas l'eau qui est autour du bateau qui le fait couler. C'est l'eau qui y entre. Et en fait, les trous de la coque du bateau, c'est le mécontentement. Vous comprenez? C'est pas l'eau qui est autour du bateau qui le fait couler. C'est l'eau qui y entre. Un esprit contenté vogue au-dessus des eaux troubles. Et j'aimerais vous donner quatre raisons plus développées de chercher le contentement, qui est plus en lien avec ce que nous vivons. Le contentement est un état d'esprit qui contient un précieux et merveilleux mélange de toutes les grâces composées d'ingrédients comme la foi, la patience, la douceur, l'humilité, etc. Et voici quelques notions qui démontrent que le contentement est excellent. J'aimerais vous convaincre que le contentement est excellent. Alors, la première raison, c'est qu'un chrétien content porte le ciel en lui. Un chrétien content porte le ciel en lui. Le ciel n'est-il pas le plus doux repos, le contentement parfait? Au ciel, on sera parfaitement content, totalement content. Et deux choses font du contentement une image du ciel. Premièrement, c'est que Dieu s'y trouve. Dieu s'y trouve. La présence de Dieu se voit dans la vie d'une personne contente, comme le visage se reflète dans l'eau calme. Le mécontentement, c'est comme une mer en furie qui écume. En fait, on n'y voit que des émotions violentes et tumultueuses, alors que les eaux calmes du contentement permettent de refléter l'image du Christ. Une deuxième chose qui fait que le contentement est une image du ciel, c'est que le repos s'y trouve. Quand on est content, on est dans le repos. Pas d'agitation, de tumulte, du désespoir. Le chrétien content trouve son repos dans les bras du Père aimant. Il ressemble à Noé dans son arche. Bien que les flottes ballottent le patriarche, il peut y vivre en sécurité. Alors, chrétien content se contente de croire en la promesse de Christ qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Un vrai contentement est excellent parce qu'un chrétien content porte le ciel en lui. C'est une première raison. Un chrétien content porte le ciel en lui. J'aimerais vous en donner une deuxième pour vous dire que c'est excellent le contentement. Deuxièmement, le contentement équipe l'homme pour servir Dieu. En fait, le contentement stabilise le cœur et prépare la prière. Quelqu'un qui est mécontent souvent n'a pas envie de prier. Quelqu'un qui est content est préparé à la prière. Il est préparé à l'étude de la parole de Dieu, préparé au service pour Dieu. C'est excellent le contentement. Quelqu'un de mécontent est comme... Ah, écoutez les enfants, là, j'ai essayé de trouver une illustration. Mais... Vous avez déjà vu un soldat? C'est bon un soldat là? Vous avez déjà vu du chewing-gum? Bon. Vous imaginez un grand chewing-gum, puis le soldat, il est dans le chewing-gum. Il ne peut pas beaucoup bouger. Hein? Eh bien, en fait, quelqu'un qui est mécontent, c'est comme un soldat englué dans du chewing-gum. Ses mouvements sont très limités, voire impossibles. Alors que le contentement équipe l'homme à servir Dieu, à être un bon soldat, si vous voulez. Personne ne joue au violon sans avoir préalablement tendu les cordes. Lorsque cette attitude céleste du contentement a tendu le cœur du chrétien, il est prêt à accomplir son devoir. Encore une autre illustration. Alors, je ne sais pas si vous avez connu ça, mais nous, on allait chercher le lait à la ferme. Et puis, en fait, le lait, on le laissait poser dans le frigo, dans une grande cuve, comme ça. Hein. Et puis ensuite, on pouvait y retirer la crème. Le lait, si on le secoue tout le temps, c'est toujours en train de bouger, en fait, vous n'aurez jamais cette crème. Ben, les secousses, c'est comme le mécontentement. Le lait posé, c'est comme le contentement duquel on peut retirer la crème. Le contentement est excellent parce qu'il prépare l'homme pour servir Dieu. J'ai pas fini. Je veux vraiment vous convaincre que le contentement est excellent. Le contentement, c'est un pilier qui prépare l'âme à porter les fardeaux. Le chrétien content réfléchit ainsi. Dieu peut me justifier face à l'opprobre. Il peut me soulager s'il me manque quoi que ce soit. C'est ainsi qu'un saint contentement empêche le cœur de défaillir. David disait, je présente ma requête devant lui, j'expose devant lui ma détresse. Anne, la mère de Samuel, ayant pleuré, prié, comment elle est repartie? Avec un visage qui ne fut plus le même, le chagrin l'avait quitté. Nous voyons ici la grande différence qui existe entre une sainte plainte et l'expression du mécontentement. La première se plaint à Dieu, voilà, j'ai des difficultés, je le dis, je me plaint quelque part à Dieu, et la seconde se plaint de Dieu. Vous voyez la différence? On peut se plaindre à Dieu, c'est-à-dire lui dire ce qui est difficile, mais se plaindre de Dieu, c'est le mécontentement. Quelqu'un a déjà eu une jambe cassée, peut-être quelques-uns d'entre vous. Pour les autres, vous pouvez imaginer. Quelqu'un qui a une jambe cassée, est-ce qu'il peut s'appuyer sur cette jambe et porter quelque chose de lourd? Ben non. Impossible de porter quelque chose lorsque nos os sont cassés. Impossible de porter un fardeau de la vie lorsque nous sommes mécontents. C'est la même chose que des os cassés. Le chrétien content détient une vie intérieure lorsque ses consolations extérieures flétrissent, comme des os solides prêts à porter parfois les difficultés de la vie. C'est excellent le contentement! C'est pas fini. Donc le contentement est excellent parce qu'il prépare à porter l'âme, à porter les fardeaux. J'ai encore trois autres raisons. Parce que c'est tellement excellent. Je continue, ça c'est court. Le contentement empêche de nombreux péchés et tentations. Il protège de multiples péchés, en particulier de l'impatience qui est la jumelle du mécontentement. J'attends, toujours pas là. C'est le mécontentement qui amène ça. Alors que lorsque nous sommes contents, nous sommes souvent bien plus patient. Ou encore, le murmure de mécontentement. Le contentement nous empêche de murmurer. On peut se réjouir, on ne commence pas à murmurer. Le contentement est excellent parce qu'il empêche de nombreux péchés et tentations. On peut prendre du temps là. Vous pouvez réfléchir encore cet après-midi. Quels sont les péchés qui sont empêchés par un contentement selon Dieu? Une autre raison, c'est que le contentement adoucit toute condition. Pour une image aussi qu'on voit dans la parole de Dieu, Christ changea l'eau en vin. C'est bon là, vous, l'eau en vin. Eh bien, le contentement transforme les eaux d'amertume en un vin spirituel. C'est ça le contentement. Il transforme l'amertume en vin spirituel, si vous voulez. Lorsque nous passons par la douleur et le deuil, le mécontentement ne fait qu'accroître la douleur. Rappelez, hein, un kilomètre de plus de douleur, même pas un centimètre de consolation, le mécontentement. Par contre, le chrétien content, malgré la tristesse qui est légitime, ne se lamentera pas sur son sort. Il regardera plus loin. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles qui disparaissent, mais aux choses invisibles qui sont éternelles. Est-ce que je rencontre des difficultés? Eh bien, je me console que malgré leur poids, je n'ai pas à aller très loin avec ces difficultés. Vous savez jusqu'où il faut que j'aille? Jusqu'à Golgotha. Je peux les laisser là. Elles sont légères face ou en regard à la gloire qui nous attend. Le contentement est excellent parce qu'il adoucit toute condition. Et enfin, le contentement est excellent parce qu'il interprète toute providence. Il ne soupçonne jamais le mal de Dieu et jamais il ne l'accuse. Celui qui est content n'accuse pas Dieu. Il ne soupçonne pas le mal en Dieu. Pour la personne contente, la maladie est la fournaise où Dieu purifie l'or et lui donne un meilleur éclat. La prison devient un lieu de prière. Dieu lui retire ses biens. Il se dit que le Tout-Puissant le préserve de trop s'y attacher. Le mécontent, par contre, accuse Dieu. Il le condamne. Lorsque tout va mal, il dit, « Il nous a emmenés dans ce désert pour nous faire périr. » Ça vous rappelle quelque chose? Mais celui qui est content prend tout bien, même dans les difficultés. Il peut dire en vérité, « Oui, Dieu est bon. » Le contentement est excellent parce qu'il interprète toute providence. Le vrai contentement est excellent. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre que le contentement est excellent. Et ma prière, c'est que cette année 2017 soit remplie de ce contentement divin dans nos vies, dans l'Église. C'est un contentement qui s'apprend, c'est vrai. Pourquoi pas faire un petit effort, par exemple après le culte aujourd'hui, où nous pourrions parler d'un encouragement que Dieu nous a donné, qui nous a permis de vivre le contentement la semaine passée ou l'année passée. Souvenez-vous, le contentement glorifie Dieu et nous rend heureux. Le contentement glorifie Dieu et nous rend heureux. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, ce matin nous sommes émerveillés et reconnaissants de voir que tu nous donnes des bienfaits qui sont tellement bons. Tu nous donnes la foi que nous sommes appelés à exercer. Tu nous donnes la repentance que nous sommes appelés à exercer. Tu nous donnes le contentement que nous sommes aussi appelés à exercer et que c'est tellement bon de le vivre. Seigneur, je te remercie parce que tu nous permets d'y goûter. Et dans ta grâce, nous te prions non seulement d'y goûter, mais d'y mordre à pleines dents. Et que durant cette année 2017, le contentement nous accompagne. Un contentement qui se base sur ton œuvre, qui se base sur ta grâce, sur ta force, sur la confiance que tu nous veux du bien, quelles que soient les situations dans lesquelles nous sommes. Ô Seigneur, nous te prions de nous donner cette grâce de vivre ce contentement qui te glorifie et qui nous rend heureux. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen.